Autre radio, autre culture, bonjour, deuxième partie en compagnie de Pierre Jacquot, ingénieur du son. Cela va depuis tout à l'heure ?
Tout va bien.
Alors nous continuons notre balade dans le son, dans les studios et dans votre recherche musicale. Vous faisiez une réflexion sur le numérique tout à l'heure, à ses débuts, qui n'avait pas de son. Est-ce que vous pensez qu'actuellement on arrive au top du son en numérique ?
On est en tout cas arrivé à quelque chose d'assez stable, puisque ça fait un petit moment qu'on ne court plus vraiment après des standards améliorant la qualité des fichiers audio. Donc je pense qu'on est arrivé à un standard qui satisfait d'une manière globale. Quelques-uns tournent aujourd'hui à des horloges plus élevées, mais enfin globalement on est d'accord pour dire que du 24 bits en 44 ans, bien fait, ça marche bien. Maintenant, sur les outils qui font tourner ces fichiers, les éditeurs, les séquenceurs audio, comme on les appelle, je pense qu'il n'y a plus vraiment de mauvais système. Il y a un standard de fait de Pro Tools. Alors, moi, je suis un peu un militant anti-Pro Tools. C'est pas que j'aime pas Pro Tools, je m'en sers beaucoup, bien sûr, mais je suis un petit peu agacé par le fait que ça ait pris le dessus juste pour des questions chronologiques. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, dans mon studio, j'ai un Pro Tools, mais je n'utilise pas Pro Tools pour faire les choses que j'utilise. J'utilise des outils qui ont plus de fonctions, de personnalité, de choses accessibles et qui sont plus novateurs que ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvais outils. Ce qu'on ne sait pas encore très bien faire dans le numérique et qu'on ne fera peut-être jamais, je pense qu'il faudra toujours passer par une étape analogique, c'est les sommations et les transformations fortes, embellissantes. Aujourd'hui, on sait très bien faire des outils neutres qui sont très bien reliés avec du mixage analogique. Mais par exemple, dans les consoles numériques, quand de temps en temps il y en a une qui sort du lot, c'est juste parce qu'on lui trouve quelques qualités qui la rapprochent du monde analogique. On n'a pas encore trouvé du numérique et du digital embellissant. On sait faire très bien du digital neutre. Les mémoires de masse ont terriblement baissé, donc aujourd'hui on sait enregistrer sans état d'âme. Je me faisais la réflexion l'autre jour de la redondance des informations. Quand on a commencé à travailler sur des outils informatiques sans support tangible tournant, on se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est fragile, qu'est-ce qu'il faut faire comme sauvegarde pour être sûr de ne pas perdre dans un... Et la stabilité aidant et le prix des disques durs baissant, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de copies et de sécurité qu'à l'époque où on utilisait des bandes de pouces sur un magnétophone. Où là, si on avait un frein qui freinait un peu fort et que le couplet prenait 10 secondes de plus, c'était foutu. Alors qu'aujourd'hui, on a forcément une copie de travail à l'étape précédente et on sait revenir facilement à cette étape-là. Donc oui, il y a plein de choses qui se sont améliorées. Et aujourd'hui, on sait faire du digital intéressant à utiliser comme stockeur et comme éditeur rapide. Voilà. Alors le marché est naissant sur les plugins qui émulent le monde analogique. Certains sont très réussis. J'ai coutume de dire qu'il ne faut pas les comparer à l'original, parce que chaque fois que ça m'a été donné, je m'incendie moi-même en me traitant de gros flemmard de ne pas brancher les machines authentiques qu'on est censé imiter sur le moment, parce que je trouve que c'est toujours mieux, même si ça apporte un peu de bruit de fond, un peu de ceci, un peu de cela. C'est quand même souvent incomparable. Les reverbs, par exemple, c'est une 480 Lexicon. Alors jusqu'à présent, il n'y a pas une seule reverb qui imite ça de manière, même, j'allais dire, satisfaisante. Ça l'est parce que c'est de mieux en mieux. Alors on écoute le dernier plugin, on dit « Ah oui, là, c'est extra ». Puis si jamais on a le malheur de brancher une Ray 480 juste après, le plugin, on passe pas la période d'essai, quoi.
Vous êtes quand même un grand amateur de plugins, vous êtes toujours à l'affût des nouveaux
Je me renseigne, je me tiens au courant. Alors c'est l'avantage de travailler en tandem avec mon fils qui a 30 ans. Lui est très attentif à ce monde-là, beaucoup plus que moi. Quand les choses sortent, il attire mon attention dessus, souvent on les écoute ensemble. Lui est extrêmement séduit par l'aspect... mémorisable instantanément de tout. Donc très souvent, il va utiliser un plugin et c'est l'inverse. Moi, je lui fais faire le chemin avec des beaux outils analogiques et de plus en plus, il y trouve son compte. Mais lui, a le réflexe plugin. Donc par son intermédiaire, j'écoute beaucoup tout ce qui se fait. tous les plugins qui inventent des fonctions, alors les nettoyeurs, les débruiteurs, tous ces outils-là, alors là, me passionnent parce qu'il en existe de fort beaux et vraiment, ça vient défricher un terrain qui, jusque-là, était pas très consistant. Autant la façade anodisée d'un madelet ou en plugin, moi, ça me le fait pas vraiment, quoi. J'ai besoin de passer par les vrais outils. J'ai envie des vrais outils. Mais bon, quand on a une station audio numérique très costaude qui admet facilement le plugin, on essaye beaucoup de choses. J'essaye beaucoup de choses, oui.
Quand on voit la complexité des machines actuellement, croyez-vous que les ingénieurs tirent parti de tout l'ensemble des possibilités de ces machines, ou ils sont comme les utilisateurs des ordinateurs, ils n'en utilisent que 10%?
Alors, la courbe d'évolution de cette chose-là est un peu particulière. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir de mes débuts où la technicité des machines était obligatoire pour nous. C'était nous qui apprenions et on avait un assistant derrière nous qui était le maître du patch. Il connaissait les trucs et astuces de l'endroit et des branchements et de ce qui marchait, de ce qui marchait pas. Par contre, toute la technicité des outils était entre nos mains. Et puis progressivement, on a vu apparaître derrière nous des gens de plus en plus qualifiés, qui avaient un bagage théorique qui était déjà impressionnant, et qui sont d'ailleurs pour beaucoup devenus des vrais ingénieurs d'aujourd'hui, qui eux apprenaient les machines par cœur avec l'énergie qu'on peut avoir à 20 ans, où on se plonge dans le manuel avec délectation et on essaye toutes les fonctions serbo-croates, bizarroïdes de la machine. Et là, eux nous ont relayé énormément. C'était tout ce qui était novateur, c'était eux qui le détenaient. Et nous, on était les garants d'un résultat et de la mise en œuvre des bonnes solutions techniques dans leur ensemble. Mais déjà, c'était le lien entre le lieu, les outils et nous. Et très souvent, ils savaient bien mieux aller dans les sous-menus des SSL et des machines qu'on ne savait faire nous-mêmes, quoi. C'était beaucoup plus probant, hein. Alors, ça a été la période où on allait dans les studios de booking. Et maintenant qu'on a à nouveau nos studios, retour en arrière, on doit être à la fois avoir ce rôle qu'avaient les assistants érudits et le rôle d'ingénieur du son. Donc, je dirais que c'est un petit peu fonction de chacun. Il y a des gens... À une époque, j'étais associé avec Yves Jaget et Manu Guillot pour des choses super intéressantes. On avait fait un pool d'ingénieurs. C'était d'ailleurs très confortable, cette période. Elle n'a pas duré beaucoup parce que c'était difficile de réaliser ce qu'on voulait faire en France. Mais je me rappelle d'un Manu Guillot extrêmement artiste qui s'intéressait peu au contenu des machines et beaucoup plus à ce qu'on pouvait en faire, et qui avait souvent un délai sur les genoux, une main à l'extrême gauche de la console pendant que il rêvait de pouvoir bouger un troisième bouton sans avoir assez de doigts pour le faire. D'un Yves Jaget qui était passionné de technologie et qui démontait volontiers ses consoles pour aller voir ce qu'il y avait dedans. Et de moi qui faisais humblement le lien entre ces deux types de personnalités. On a tous une manière différente d'aborder les outils. Moi, aujourd'hui, le contenu me passionne si c'est un contenu à forte valeur ajoutée. Maintenant, ça n'est pas systématique. Il y a par exemple des choses que je ne vais pas pousser dans leur dernier retranchement parce que je devine que ça ne va pas m'apporter beaucoup de satisfaction. Et puis, je pense aussi que c'est des périodes de vie. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de projets intéressants, on a moins le temps d'inspecter les machines jusqu'au tréfond des entrailles. C'est un peu, voilà, c'est un peu fonction de ça aussi, quoi.
Dans la vie d'un ingénieur du son, ça fait 30 ans que vous êtes ingénieur du son.
Eh oui, eh oui.
Est-ce qu'on arrive à sacrifier à la mode du moment ?
Ah, il le faut. De toute façon, il y a des questions d'impératif. C'est-à-dire que c'est presque un débat de fond. Il faut, dans un métier dans lequel on doit, comme je le disais à l'instant, on est garant d'un résultat, ou en tout cas d'une tendance vers ce résultat, on doit être imprégné des valeurs du moment. Alors dans ce qu'elles ont de bon et dans ce qu'elles ont de moins bon. C'est-à-dire que si on analyse mal, et je pense que c'est pour ça que le monde est monde et que le succès vient souvent un petit peu plus tard dans la vie. Souvent je me dis que j'aimerais avoir l'énergie de mes 20 ans avec ce qu'on a dans la tête à partir de 40. À 20 ans, on fait les choses d'une manière un peu instinctive. À 40 et à partir de 40, je pense qu'on y réfléchit plus. Et aujourd'hui, le cahier des charges d'un projet, c'est quelque chose de complexe. Et dedans, il y a évidemment les choses après lesquelles le producteur ou l'artiste court. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est très très important. Et souvent d'ailleurs, quand on fait connaissance avec le monde esthétique, la couleur, les envies d'un artiste, très souvent, ça débute par des écoutes. très souvent, ou des écoutes, ou au moins des références qu'on se cite. Qu'est-ce que vous aimez? Si c'est tel artiste, quel album? Et pourquoi? Et qu'est-ce que... Et quelquefois, c'est bien plus explicite qu'une discussion d'une heure et demie sur le... dont on ne se passe pas d'ailleurs, parce qu'il la faut aussi sur un plan humain, mais c'est très important. Donc oui, la mode, oui. Quelquefois pour se mettre en travers, quelquefois pour la suivre. Mais en tout cas, il faut en tenir compte, oui, je crois.
Dans ce qui s'est passé dans 30 ans, dans 30 ans de carrière, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant que vous regrettez? Est-ce qu'il y a des choses actuelles qui sont arrivées? Et lesquelles qui vous changent la vie actuellement dans les prises de son?
Ah, sur le plan de l'outil, vous voulez
oui,
dire
oui.
Ben, cette évolution, oui, alors j'en vois une en particulier. J'ai souvenir de l'époque où le matériel ne permettait pas de mémoriser correctement les mix. Alors on courait après des notions de total recall sur les consoles, de notation un petit peu laborieuse des effets analogiques. Alors j'ai souvenir de mes assistants qui passaient des heures à mettre des petits traits de crayon devant des formats papier sur des façades analogiques. Et puis on vous facturait 2 heures de studio pour remettre le mix en situation. Et au bout de 2 heures, on vous disait, tiens, regarde, j'ai mis l'ancien mix et le nouveau, c'est presque pareil. Et c'était ce presque était évidemment totalement indigeste, puisqu'on venait pour finir quelque chose qui avait été commencé. Donc il y avait des sessions de travail qui pouvaient, comme on le disait dans la première partie de l'émission, durer jusqu'à 14-15 heures. Il y a même eu des records du monde, hein. Il y a eu beaucoup plus que ça. Mais j'ai souvenir de matins blafards, épuisés après un mix dont on ne savait plus s'il était bon ou pas bon, parce qu'on avait depuis longtemps passé l'apogée de notre énergie et de notre concentration, et obligé de terminer parce que la séance qui suivait allait démonter ce qu'on avait monté, défaire le patch, défaire la console, défaire les effets, et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait retrouver, et quelquefois c'était tout simplement pas possible, parce qu'il y avait une butée mécanique de date, de deadline sur le rendu du projet, alors qu'aujourd'hui, on sait passer d'un titre à l'autre instantanément d'un clic de souris ou presque, et ça... C'est génial parce qu'on a appris à mixer, on retrouve le mixage à l'envi. C'est-à-dire que si on est fatigué d'un titre, moi quand je suis dans un projet, il m'arrive d'abandonner mon mix, d'aller en mixer un autre, d'y revenir avec plaisir, sans avoir l'impression de buter devant un obstacle auquel on ne peut rien. Et... Alors si je devais applaudir une révolution technologique dans notre métier et une seule, ce serait... grâce à ces stations numériques et à leurs dérivés et à l'informatique en général, la vraie mémorisation de la séance de travail à un instant T. Ouais, ça c'est formidable. Et si on l'avait eu plus tôt, on se serait moins emmerdé la vie.
J'ai appris également que vous travaillez dans le live. Alors quel est votre travail particulier?
Alors moi j'ai un vrai credo par rapport à ça. Moi j'aime les disques des gens qui font du live et j'aime les sonorisations des gens qui ont fait des disques. Et c'est un truc pour moi qui est très très important. Par exemple, c'est ce qui nous avait réunis avec Manu et Yves d'ailleurs, parce qu'on faisait tous les trois dans les deux disciplines. Je pense que nos carrières ressemblent étrangement à celles d'un musicien. Et on concevrait assez mal qu'un musicien s'enferme dans un studio pour n'en jamais sortir, comme faisant de la scène et étant incapable de produire une séance de studio. Je pense que c'est deux énergies totalement complémentaires. Je caricature à dessein, hein. Il y a des gens qui sont des spécialistes des deux disciplines et qui sont merveilleux, mais en tout cas, ça s'applique à ma petite personne. Moi, il m'arrive plusieurs fois dans l'année d'avoir envie, au bout d'un disque très compliqué, d'aller sur la route et d'avoir une énergie très monolithique et très courte dans le temps et très forte qu'apporte le live. Le live, finalement, on est à l'économie tant qu'on n'est pas en spectacle. Puis dans le spectacle, on peut perdre 2 litres de flotte. Et puis il y a cette adrénaline qui arrive. Et puis il y a cet effet physique du son qui vient de 30 ou 40 mètres de vous, très fort, et qu'on partage avec X centaines ou milliers de personnes autour de vous. Il y a ce côté instantané, cette espèce d'énergie sportive, j'allais dire. Et puis dans le studio... il y a tout ce côté formidable avec les binocles sur le nez en train de se dire est-ce que j'ai pas été trop loin ou est-ce que j'ai été assez loin et est-ce que j'essaierai pas de mettre 2 ou 3 micros différents sur la caisse claire pour voir lequel je préfère. C'est donc 2 énergies très complémentaires et je pense qu'elles correspondent à des moments différents, à des envies différentes, et je serais bien malheureux si aujourd'hui on me disait il faut arrêter complètement un des deux. Par contre, clairement, pour des questions de mode de vie, je suis moins dans le live que je l'étais à l'époque. Il m'est arrivé de me retrouver 10 mois parti de chez moi, à donner rendez-vous à mes mômes dans les zones de transit des aéroports pour pouvoir les croiser. Ça, je ne veux plus jamais, quoi. Quand on est dans le Xème Mercure à Châteauroux, en train de se demander ce qu'on va faire le lendemain. Bon, il y a des tournées qui sont plus des purgatoires que des moments de bonheur. Mais mais il y a aussi tous les instantanés, et puis tout ce qui réunit les deux, c'est-à-dire... On parlait tout à l'heure hors antenne de cette histoire des énergies que je partage de temps en temps avec mes amis de Energy Events qui m'appellent pour aller faire des grosses manifestations dans lesquelles il y a du live. C'est un moment génial parce que c'est un moment qui va être mis en boîte, donc il faut la méticulosité de l'approche studio. Et puis en même temps, ça n'arrive qu'une fois, donc il s'agit de bien la préparer. Et c'est one shot, il n'y aura pas de filet. Et donc ça c'est très sympa parce que c'est un petit jet d'adrénaline, parce que c'est un moment de concentration, et puis c'est une mesure, c'est une espèce de, là encore, de maître étal où on se dit tiens, est-ce que je suis encore capable de le faire, y compris dans des genres musicaux qui sont pas ceux que je côtoie forcément tous les jours. Et... Ouais, moi j'aime bien. J'ai tendance à dire que mon fil conducteur est l'artistique, et que si un artiste avec qui j'ai aimé faire l'album me demande de faire la scène, je vais y aller. Et que inversement, si à la fin d'une tournée, la suite logique est un album et qu'on me demande de le faire, je vais a priori le faire. C'est plus ça que de faire tous les disques d'un genre, ou tous les concerts d'un genre, ou tous les... voilà.
Vous vous occupez également de... Vous faites des enregistrements en live, mais est-ce que vous vous occupez de la sonorisation ?
Ah oui. Quand je parle de live, c'est plus souvent de la sonorisation elle-même.
D'accord.
Et alors c'est amusant parce que je l'ai approché avec cette espèce de précision qu'on essaye d'avoir en studio, en me disant il me faut tel et tel type de matériel. Et au début, mes premiers concerts, j'ose le dire aujourd'hui parce qu'ils datent de 20 ans maintenant, notamment avec Antoine Hervé dont on parlait tout à l'heure, avec l'Orchestre National de Jazz et les Jazzmen, je faisais des sorties de console qui au casque, je pense, sonnaient très bien. Mais j'avais pas encore expérimenté du tout les systèmes, les montages, les zones de couverture, les pressions. Donc je me faisais complètement balader. Je ne savais pas du tout transformer ce beau son de console en un beau son live. Et il a fallu que j'apprenne. Et ça a été une école d'humilité parce que là, j'ai vu des tonnes de gens me passer devant le nez, m'expliquer, me tirer par la manche, me dire non, mais viens voir un système. Puis alors, cours pas après des 20 000 Hz sans sonorisation, ça n'a pas d'intérêt. Va plutôt faire attention à ce que les premiers rangs soit audible, et à l'époque on n'en était pas où on en est aujourd'hui avec du line array, des enceintes qui dessinent presque le faisceau de projection du son qu'elles proposent. On était dans du matériel plus rudimentaire dans lequel il fallait beaucoup de démerdes, beaucoup de... Ça avait un côté extrêmement intéressant, quoi. On se frottait à du dur, et puis souvent dans des acoustiques absolument... infaisable, quoi. Alors, en live, ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez sortir du concert, vous, en étant complètement déprimé par ce que vous avez obtenu, et puis voir des gens qui vous répètent à l'envi qu'ils n'ont jamais entendu un concert dans cet endroit qui sonne aussi bien. Parce que l'endroit est tellement difficile que vous êtes arrivé à peu près à quelque chose dedans, mais pour vous, par rapport à la ligne de flottaison, vous êtes 10 étages en dessous, et pour eux, c'est formidable. Donc c'est un truc... voilà, ça recalibre, ça reset, ça redonne une espèce de point de repère complètement différent, et c'est une réflexion de fond à avoir. On n'est pas du même côté des enceintes que l'artiste. C'est-à-dire que si vous partez avec un capital confiance, vous avez fabriqué un disque. Je vais prendre, en ce moment, j'ai redécouvert mon ami Richard Galliano, qui est un musicien que j'adore, qui me fait vibrer depuis toujours, avec qui j'avais déjà bossé, mais pas assez à mon goût, et qui m'a demandé, il y a 2 ans, de me réassocier à ses projets importants et de faire de la scène avec lui. Et alors, on a fait les choses à l'envers pour une fois. J'avais fait du disque avec lui. Là, je me suis mis à faire de la scène beaucoup. Et puis, il a souhaité faire un disque sur Bach. Alors, bon, c'était tous mes amours qui retombaient dans la même gamelle. Et il a souhaité le faire avec moi. Les choses se sont faites. Là, c'est extraordinaire parce que d'un seul coup, je sens qu'on redéveloppe son esthétique, le son de son accordéon comme il le veut. On l'entend ensemble, on le retravaille ensemble et on repart sur la route avec une espèce de capital tout neuf où il sait que de l'autre côté des enceintes, il est défendu comme il a envie de l'être. Et pour moi, c'est un confort incroyable.
Comment expliquez-vous, en tant qu'ingénieur du son, au niveau de la sonorisation, le fait que, par exemple, dans des concerts, des grands concerts qui vont faire venir 6000 personnes, on entend, quand c'est au moment des balances et que le chanteur joue et chante avec ses musiciens, le son est exceptionnel, et une fois qu'il y a les 5000 ou 6000 personnes qui sont là, d'un seul coup, ça devient une espèce de brouillard.
Alors, il y a plusieurs paramètres qui sont liés à ça. J'allais dire le tout premier, comme presque toujours, ça va de l'amont vers l'aval. C'est-à-dire que les gens qui sont sur scène ne donnent pas la même intensité de jeu à la balance, au soundcheck et au moment de la performance. Et quelquefois, le schéma que vous venez de citer se produit à l'envers. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assez timides, qui vont jouer assez peu. Nous, on est très, très, très dépendants de ce qui se passe derrière les micros. On a moins de moyens techniques de combler des vides, de redonner de l'énergie, ou en tout cas, ils ne sont pas instantanés. Donc, ça demande... Quand, par exemple, on découvre des artistes en festival, parce que j'ai pratiqué les deux sports, j'ai tourné avec des artistes qui étaient, donc, par définition, les mêmes tous les soirs, et on finit par capter leurs moments forts, leurs moments faibles, ce qu'ils peuvent donner à certains moments et à certains autres. Et il y a aussi les festivals où on va découvrir l'artiste. Et alors, il y a des artistes qui ne jouent pas du tout à la balance, et qui, le soir, jouent comme des fous. On est dans un lieu, si le lieu est fermé, ça ne va pas donner les mêmes effets, on va avoir un son de plateau qui va être différent, ils vont avoir des besoins sur scène qui vont être différents, ils vont faire monter le son dans leur retour de scène, qui va lui-même être repris par le micro. En fait, la difficulté de ces disciplines est issue du nombre de paramètres qu'il faudrait contrôler. Finalement, aujourd'hui, un bon ingé son de live, c'est quelqu'un qui connaît très bien son plateau ou qui le devine très bien, parce que quelquefois, je pense que des gens comme Yves, des gens comme Patrice Kramer ou des gens comme Stéphane Plisson ou Andy Scott voient arriver des artistes sur le plateau, quand on voit un batteur prendre ses baguettes, avant qu'il ait tapé le premier coup, je sais si je vais avoir affaire à un batteur qui va m'envoyer des impacts qui se ressemblent les uns aux autres, qui va jouer en place, qui va jouer avec un son, ou si je vais devoir tout fabriquer moi et me battre contre ce qui existe à la base. Alors, on est servi par le fait que ces musiciens qui sont sur scène ont eux-mêmes très probablement au moins un petit ordinateur et un petit système de prise de son à la maison, et que d'un seul coup, on n'est plus dans deux manières de parler qui sont l'une technique et l'autre musicale, mais on va se comprendre un peu, on va avoir des points de repère. Mais si vous faites le son de petits musiciens débutants ou de gens parfaitement aguerris à ce sport-là, dans le même endroit avec le même matériel, ça ne va pas donner du tout la même chose. Donc, alors ça, c'est le premier élément, c'est la scène. Le deuxième, c'est le remplissage de la salle. Si vous avez une salle très gradinée, même grande, mais où le gradin a une pente importante et une grande capacité de public, vous allez avoir d'un seul coup une des dimensions, un des plans de la salle qui va être traité acoustiquement par le nombre de personnes. Ça va être la dissipation. Alors, c'est une dissipation en chaleur qui va casser les réflexions. Le public est parfait pour ça, beaucoup mieux que les chaises en plastique sur lesquelles il est assis. Et à la balance, ce dont on va être victime, ça va être de réflexions parasites dans tous les sens qui vont venir s'ajouter à celles qu'il y aura inévitablement, parce qu'il y a du verre, du métal, du béton partout. On va avoir sur une de ces faces-là du public qui va absorber un petit peu et qui va a priori améliorer le résultat. C'est ce qu'on dit souvent. Puis pour finir, des petits et des épiphénomènes qui sont les températures qui changent, la propagation, l'aigu, le grave, entre l'après-midi. Par exemple, je me rappelle du festival de Cray dans la Drôme, festival vocal qui est dans une espèce de terrain très plat, très ensoleillé la journée et où la température tombe complètement la nuit. C'est carrément deux mondes complètement différents. Fort heureusement, on est accueilli par des techniciens qui connaissent parfaitement le phénomène et qui vous disent la balance ne sert qu'à équilibrer la console, n'essaye pas de faire le son l'après-midi. Et voilà, quand on rencontre tout ça, et c'est ce qui est amusant.
On va parler un petit peu de la variété française, de la nouvelle variété française. Quel est le problème actuel de cette variété?
Alors, est-ce qu'il y a un problème? Il y a peut-être autant de problèmes que de tentatives de création. Je dirais, les références se sont faites dans le temps sur des compositions fortes. Alors vous allez me dire qu'à force d'inventer, ça devient difficile de rester inventif et novateur. Est-ce que tout n'a pas été inventé? Je ne sais pas. En tout cas, quand de temps en temps on confronte, j'aurais presque envie d'enlever le français parce que c'est international comme phénomène. Quand on confronte les créations d'aujourd'hui à celles d'il y a 20 ans, alors je me suis amusé à ça l'autre jour involontairement parce que j'ai vu des rushs de ce que va être This Is It, le documentaire donc sur les répétitions de Michael Jackson, et tout de suite après il y avait une retransmission en différé des Grammy Awards. Et bon, voilà, deux générations se confrontaient à 20 ans d'intervalle. On avait très sérieusement, et je trahirais personne et je ne surprendrais pas grand monde en disant l'impression d'un très net appauvrissement des compositions. Aujourd'hui, on est dans une logique de cycle très court. Il faut convaincre très très vite, très fort, très longtemps, c'est si on peut. Mais ça devient rare. J'identifie le problème qu'on a aujourd'hui à un problème de durée, où toutes les choses se raccourcissent et où il faut faire très vite. Les gens qui s'occupent de vendre du disque vous diraient qu'aujourd'hui, une nouveauté ne l'est pas plus de 15 jours. Voilà, tout est là-dedans, tout est compris là-dedans. Il faut être convaincant, quitte à être superficiel, il faut être convaincant tout de suite. Donc je pense que ça pose des petits problèmes de vision à terme, que ça pose... je pense que l'énergie qui mobilise aussi un petit peu les artistes est une énergie un peu anxieuse, pas très sereine. Je pense que ça fait du mal à tout le monde. Personne n'est responsable en particulier de ça, d'ailleurs, mais c'est un état de fait. Tout s'est accéléré. Et ça manque de... Et les artistes aujourd'hui pérennes, les artistes qui durent, sont tous des artistes qui ont déjà pas mal de bouteilles. Alors, de temps en temps, il y en a un qui sort du lot, hein, qui a plus de contenu, qui est plus en adéquation. Là encore, on demande beaucoup de choses aux mêmes personnes, d'être des interprètes, des créateurs, assez originaux, et de faire en même temps assez référence à ce qu'on a aimé pour être tout de suite attachant. C'est des choses qui sont à la fois une chose et leur contraire, et son contraire, et c'est un truc un peu particulier, quoi. J'aimerais pas être à la place d'un artiste aujourd'hui. Je suis content d'être un homme de l'ombre dans cette industrie de la musique, parce que j'ai pas la responsabilité du premier plan. Alors, je dis ça tout en pensant l'inverse, parce que je me remets à faire de la production à titre personnel et à réaliser des choses, donc je suis réimpliqué au premier plan, en n'ayant pas tout à fait les impératifs qu'ils ont eux, quoi. Je risque pas ma peau à chaque production.
Sur ce, on peut citer l'exemple quand même de, il y a 25 ans, on va dire, il y avait 3 artistes sur 10 qui chantaient faux lors d'un spectacle. Mmh. Maintenant, on arrive à 3 sur 10 qui chantent juste lors d'un spectacle.
Alors, j'aurais tendance à faire des petits courts-circuits. Je reviens à cette notion de temps. Combien de temps ont-ils eu pour se former, se préparer à cette carrière de chanteur? Quelle est l'importance que leur public accorde à leur technicité par rapport au reste de leur qualité? Tout se recoupe. Récemment, donc, j'ai fait les Energy Music Awards à Cannes pour Energy. J'écoutais le nombre de nouveautés qui sont traitées à l'autotune, sous des prétextes, on est bien d'accord, esthétiques, hein, pour obtenir cette voix un peu robotisée avec les articulations que fabrique l'autotune. Mais à quel moment est-ce que ça ne sert pas aussi à corriger? Alors, on avait des instructions très précises des productions, où on devait enclencher l'autotune à un certain moment, le déclencher à d'autres. Et on s'apercevait que la position déclenchée de l'autotune, c'était une position enclenchée faible, pour parer quand même à certaines choses. Et des artistes qui sont reconnus pour leur qualité vocale aujourd'hui n'étaient pas les mieux lotis dans cette histoire-là. Moi, ce que j'ai prélevé dans This Is It de Michael Jackson, c'est que, comme ils n'avaient bien sûr jamais prévu que ça deviendrait un film, le son qu'ils ont récupéré, ce sont des circuits de Ear Monitor. Parce qu'on l'entend, c'est un peu déséquilibré. Donc ça veut dire que la voix était irretouchable par elle-même. Il y a 2 titres dans la totalité où il y a des petites hésitations vocales, où c'est un peu imparfait. Le reste du temps, on a l'impression qu'il est en performance. Il est au-dessus du niveau de performance d'un artiste d'aujourd'hui. Il est en répétition. Donc ça, le delta, il ne peut pas ne pas sauter au paf. On le voit tout de suite. Et il exige des autres un peu énormément, c'est-à-dire un peu moins que ce qu'il exige de lui-même. Il est dans une exigence par rapport à lui-même. Quand il sent qu'il n'est pas très juste, il arrête de chanter, il laisse chanter ses choristes, jusqu'à se reprendre et à dire « cette chanson-là, il ne faut pas la chanter au début, je ne suis pas chaud ». Et voilà, il ne savait pas qu'il serait scruté à la loupe, il n'y avait pas cet enjeu, il n'y avait pas cette pression. Et quand il danse, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pas de travers, il n'y a pas de relâchement, il ne danse pas à l'économie, il n'est pas habillé comme un clown. Moi, j'en ai vu, hein, aux répétitions des Energy Music Awards, arriver en pyjama avec le bonnet sur la tête et des lunettes de soleil. C'est un truc, c'est un état d'esprit, c'est un... Dedans, je voudrais pas avoir l'air de critiquer une génération complète, parce que c'est vraiment pas le cas, parce que dedans, il y a des gens extrêmement sérieux et très talentueux, mais très nettement, le niveau d'exigence a baissé. Il est monté probablement dans ce que je qualifierais de packaging, de manière d'entourer la création artistique. Et le cœur de cette création, ça a un peu baissé. Je pense que les maîtres de Michael Jackson, c'était toute l'école Motown et des gens qui chantaient déjà formidablement bien. Donc pour sortir au milieu de gens qui chantent formidablement bien, on le voit, hein, la tante de Whitney Houston, c'était Dionne Warwick. Bon voilà, on a tout compris. C'est des familles, il y a une tradition forte, ils arrivent là-dedans, s'ils chantent comme des patates, on leur dit tout de suite qu'il faut s'orienter vers le textile ou la chaussure. On ne les encourage pas à faire de la musique. Donc alors que là, on sent que les gens se sont fait surprendre par un parcours, par un pourquoi pas, par quelque chose. Et puis dedans, il y en a qui s'en tirent formidablement. Mais moi, l'autre jour, j'avais des discussions de fond sur des artistes qui sortent aujourd'hui. Il y en a certains pour lesquels on dit Ils chantent pas bien, mais t'as vu les clips, comme ils sont léchés. Et c'est amusant de parler comme ça de chansons, parce que c'est pas des cinéastes, c'est des musiciens. Donc voilà, quoi, on est là-dedans, on est là-dedans. Et on a vraiment l'impression, dans certains cas, d'une vraie vision à terme et globale de tout ce qui est proposé. Et puis dans un autre, d'un truc qui fait un peu ce qu'il peut, dans un laps de temps qui lui est donné, pour convaincre, avant de passer au suivant. Il faut s'interroger sur des questions de fond, je crois.
C'est amusant de vous entendre parler des clips, parce qu'on s'aperçoit que les plus grands clips musicaux qui ont existé se sont à l'origine réalisés par des grands réalisateurs de films.
Oui, absolument.
Alors que nous avons rencontré, nous, des producteurs de clips, qui pour eux, la chanson était la plus importante, donc le clip, c'était juste un habillage de la chanson. Mais bon, effectivement, ils n'ont pas marché.
Ouais.
Le clip, si l'on veut qu'il marche, il faut qu'il y ait aussi une démarche cinématographique importante.
Absolument. Ou alors avoir compris la spécificité du clip et de le mettre en marge de ça. Moi, j'ai vécu au studio d'Auteuil, j'ai vécu les premiers clips de Mondino et cette époque-là qui était où il y avait Jean-Paul Goude et des gens comme ça qui étaient des visionnaires, des gens qui travaillaient le visuel comme des fous. Pas forcément sous l'angle du cinéma, hein. C'était quelquefois la publicité. Et c'était donc la manière de capter l'image et de travailler l'image de télévision, beaucoup plus que de cinéma. Et puis après, évidemment, j'aurais tendance à dire qu'il doit y avoir un rapport qui peut se ressembler entre le cinéma et la vidéo et la musique classique et la musique moderne. C'est-à-dire que quand on a les bases, et si on a l'esprit un peu inventif et qu'on peut s'évader un peu, on doit pouvoir faire des choses assez différentes. Mais c'est une vraie valeur ajoutée, le clip, c'est un vrai haut métier, quoi, on va dire.
Vous êtes dans un studio qui marche.
Ah, qu'est-ce que c'est un studio qui marche aujourd'hui, on ne sait pas trop.
Voilà, justement, je voulais parler sur cette question. Il y a beaucoup de gros studios qui ont mis la clé sous la porte.
Ouais, c'est un grand moment de tristesse d'ailleurs. Il y a des endroits dans lesquels j'ai passé un temps infini qui ont disparu et je sais que je ne suis pas le seul à le penser. Et très triste. Moi, j'ai converti un tout petit peu la période en essayant de récupérer des machines que j'ai beaucoup aimées à tel ou tel endroit. J'ai beaucoup chez moi de machines où j'ai gardé la petite étiquette de patch derrière où il y a marqué plus 30, studio du bas, quelques pieds de micro comme ça aussi qui viennent de tel ou tel endroit. Aujourd'hui, un studio qui marche, alors puisque c'est devenu, que ce ne sont plus des studios de booking, ou, enfin il y en a quelques-uns, il n'y en a plus beaucoup, ce sont des studios de personnes, donc c'est intimement lié à la notion de carrière à succès ou pas de l'ingénieur du son qui préside à la destinée du studio. Ce sont aussi souvent des studios d'artistes. Nous, on a construit avec Antoine, mon fils, un studio, enfin donc deux cabines, mais je vais me parler d'un studio dans son ensemble, qui se met au service de projets et qui nous aide à fabriquer des choses. Alors, par exemple, la cabine du haut, c'est une cabine dans laquelle on fait aussi bien du mastering que du mixage, que de la restauration de son et des choses comme ça. C'est un peu notre cabine à tout faire. Puis la cabine de bas, du bas, c'est notre cabine de mix dans laquelle on a une belle console analogique, beaucoup de choses. Bon, alors on va dire qu'en termes de remplissage, on n'atteint sûrement pas des scores absolus comme on les connaissait à l'époque où les gens se succédaient jour et nuit. Mais par exemple, c'est délibéré de notre part. On n'a jamais planifier une exploitation la nuit, parce que nous, on n'a pas envie de travailler la nuit, et que c'est un studio dans lequel on a 3-4 copains qui viennent de temps en temps faire des choses, mais c'est surtout nos cabines à nous. On survit, on va plus chercher le travail qu'à l'époque. Moi, j'étais obligé de m'habituer ces derniers mois, c'est venu tard pour moi, j'étais obligé de m'habituer à l'idée d'aller chercher un peu les projets, alors qu'à l'époque, j'étais surtout organisé pour répondre à une demande. Aujourd'hui, j'ai même des envies de production particulières parce que du coup, ça remonte à la surface. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai un studio? C'est aussi pour m'en servir sur des choses plus personnelles sur lesquelles j'ai envie de miser et puis de durer un petit peu. Et puis, et en même temps, c'est un outil formidable, le studio. Donc, je me débrouille aujourd'hui pour que la machine ne grippe pas pour des questions bêtes, c'est-à-dire que je ne m'endette pas. On fait en sorte d'avoir un train de vie relativement modeste. On achète des belles machines quand on a des sous, on en achète moins quand on a moins de sous. On essaye d'avoir des frais généraux qui soient très raisonnables, ce qui fait que si on doit traverser une période dans laquelle on a un peu moins de boulot, a priori, c'est pas catastrophique. On se paiera un peu moins, on fait un peu plus attention, on va un peu plus loin. Et puis, on essaye surtout de s'impliquer dans des choses qu'on sent devenir et puis sur lesquelles on va bosser sur la longueur pour faire découvrir des gens, quoi. C'est un petit peu le raisonnement. Ça va avoir des vertus, il faut voir les choses du bon côté, j'ai appris à faire ça, sûrement un peu purificatrice tout ça, c'est-à-dire que forcément à force de nous décimer les uns après les autres, on n'a jamais eu besoin d'autant de musique, donc c'est pas le besoin de musique qui baisse, c'est juste un marché qui est prodigieusement désorganisé. Donc je pense qu'il faut traverser cette période un peu difficile et puis en sortir debout. Et là, les gens qui ont du savoir-faire, comme tous ceux que je me plais à citer depuis un petit moment et dont j'essaye de faire partie, ceux qui seront debout à la sortie de la tempête se porteront pas trop mal. On n'aura plus les trains de vide nabab qu'on a eu à une époque, c'est fini, il faut juste, faut analyser le truc sur sa longueur, c'est bien, on a bien vécu. Maintenant, il faut avoir des prétentions sans doute un peu plus humbles, mais on a un rôle énorme à jouer, c'est important. On vient nous chercher, hein. On vient plus, maintenant, on vient moins nous chercher en amont d'un projet pour nous dire qu'il va falloir mener ce projet de pied en cap. On vient nous chercher quand le projet est passé par plein d'étapes, que le contenu y est, mais que la forme n'y est pas. Alors là, on se met un gyrophare sur la tête et on nous dit, bon, voilà, dans 10 jours, il faut rendre le projet. Et il faudrait le retaper parce que on devine ce que c'est, mais ça ne sonne pas vraiment. Et là, là, c'est marrant, c'est une autre discipline, il faut savoir le faire aussi, quoi.
Très bien, nous allons nous arrêter là.
D'accord.
C'était très instructif, passionnant.
Merci.
Merci Pierre Jacquot, bonne route.
Merci Marion, on va essayer d'avoir une route sereine, c'est mon aspiration du moment, j'ai envie de tranquillité.
Bien, à très bientôt en
à
tout
très
cas,
bientôt.
Pierre Jacquot.
Avec plaisir.
Ici, autre radio, autre culture, au revoir. Autre radio, autre culture.